Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nombre, chapitre 10, verset 29. C'est une histoire originale, bon, je vous expliquais un peu le contexte, mais le message qui en ressort est très intéressant parce que ça revêt le caractère d'un appel. Un appel à suivre. Un appel à se laisser entraîner, mais dans la bonne manière, et par les bonnes personnes. Alors on va voir cela ensemble. Donc, verset 29, Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie. Puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et il fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Alors ça, c'est la première partie de notre message. Moïse, en effet, n'est pas tout seul. Il a à peu près, compagnie quand même assez constituée, près de 2 millions de personnes avec lui. Donc, il ne peut pas dire qu'il est seul dans le désert. Mais, toujours est-il, il est investi d'une lourde responsabilité, c'est-à-dire, une grande partie déjà a été accomplie, faire sortir les Hébreux d'Égypte de la servitude et de leur misère, et puis de les emmener, finalement, dans le pays où coule le lait et le miel, pays de la promesse de Dieu, pays d'Israël. Alors, il ne s'appelle pas encore de ce nom-là, mais il est nommé le pays de Canaan. Pays de Canaan, c'est le pays du bonheur terrestre, en quelque sorte, enfin, dans l'esprit que Dieu a donné de dire aux Hébreux, vous avez été malheureux en Égypte, vous avez été un peuple écrasé, un peuple d'esclaves, un peuple où vous avez été ruiné, vous avez été réduit à la captivité. Maintenant, moi, je vais vous prendre en charge, moi, votre Dieu, et je vais vous donner de nouvelles conditions de vie. Mais entre la sortie d'Égypte, avec des miracles, avec des choses extraordinaires, parce que bon, faut bien dire que ce pauvre peuple d'Israël, maltraité, écrasé, humilié, n'a aucun moyen de défense, ce sont des esclaves, et ils vont pourtant voir la puissance de Dieu, de la manière dont Dieu va traiter Pharaon, l'Égypte, qui est le premier empire de l'époque, un grand empire en tous les cas, du monde connu d'alors, et ce peuple va être vaincu, finalement, eh bien, sans armes, sans rien du tout, et Pharaon et toute son armée vont être engloutis dans les eaux de la mer Rouge. On connaît l'histoire, enfin je rappelle brièvement. Et entre eux, naturellement, cette sortie glorieuse et cette entrée dans le pays de Canaan, il y a le désert. Il y a toujours un désert dans notre vie, à un moment ou un autre. Et ce désert, il faut le comprendre d'une manière positive, dans ce sens que, entre ce que nous étions hier, ce que les Hébreux étaient hier dans leur misère, sans espérance, éloignés de tout espoir, de toute vie, en quelque sorte, digne de ce nom et d'un peuple comme ça, de liberté, eh bien, il va y avoir finalement cette période qui aurait pu durer beaucoup plus courtement, mais en raison de leur incrédulité, de leur réticence, de leur murmure incessant, eh bien, au lieu de durer 2 ans, ça va durer 38 ans de plus, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est un chiffre symbolique. Jésus, 40 jours dans le désert. Et puis, bien d'autres exemples, nous avons autour de ce chiffre 40. C'est le chiffre de l'épreuve. C'est le chiffre où nous sommes en préparation pour un devenir, pour un avenir préparé. Et ils vont devoir traverser naturellement, eh bien, ce désert. Ils vont tourner en rond 40 ans. Ça aurait pu être plus court, je viens de le dire, mais ils sont difficiles à mener, hein. Et pourtant, ils ont un homme extraordinaire. Moïse, c'est pas n'importe qui. C'est un homme de foi. C'est un homme qui reçoit les paroles de Dieu et, comme sur Sinaï, par exemple, au Sinaï. Et nous voyons que ils vont véritablement être rebelles à ce moment-là. Alors, bon, ils sont pas prêts, ben, ils vont rester dans leurs conditions. Ils vont être malheureux, ça, c'est sûr. Et ils sont là en train d'errer dans le désert. Et Moïse, a auprès de lui son beau-père, hein, qui s'appelle Hobab. Et qui est, c'est marqué, hein, et qui se trouvera sous un autre nom, le nom de Jéthro. Voilà, il est beaucoup plus connu sous le nom de Jéthro. Et Hobab, ça veut dire bien-aimé. Réuel, descendant de Réuel, ça veut dire, eh bien, l'ami de Dieu. Donc, finalement, quelque part, même si c'est un païen, même si c'est un homme qui n'a rien à voir avec la nation d'Israël, c'est un homme qui est sympathisant. C'est un homme qui a des bons sentiments vis-à-vis d'Israël. Hein, pas comme les Amalécites ou comme tous les peuples qui veulent faire la guerre et attaquer traîtreusement Israël pour le détruire. Non, il y a de bons sentiments. Alors Moïse a son beau-père avec lui et il va lui dire, Moïse va dire à son beau-père, eh bien nous partons pour un lieu dont l'Éternel nous a dit, je vous le donnerai. Alors, ça repose sur quatre mots. Je vous le donnerai, Dieu parle. Et Dieu dit à ce moment-là, et il l'avait déjà dit depuis longtemps, il l'avait dit à Abraham, il l'avait dit à toute une succession d'hommes qui avaient l'Esprit de Dieu, et voilà, et ça a été cru, enfin pour les chefs d'Israël, en tous les cas pour Moïse. Et Moïse va se trouver à la tête de toute cette cohorte, un peuple de 2 millions de personnes, avec des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants qui vont là errer, hein, dans ce désert terrible, et c'est pas facile, hein, de bouger les gens, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Et lui, véritablement, il a la foi, Moïse. C'est un homme qui croit à la parole de Dieu. Il dit, moi j'ai reçu que Dieu, cette parole que Dieu nous donnerait le pays, il va nous le donner. Alors, faut attendre quelque temps, hein, mais les choses vont être faites. Ils rentreront d'une manière extraordinaire, tout aussi extraordinaire qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils vont rentrer dans le pays de Canaan d'une manière aussi formidable, hein. Jéricho, les murailles de Jéricho, la traversée du Jourdain, la conquête de toute la plaine, en quelque sorte, et un pays qui est fabuleusement riche, le pays de Canaan, hein. Comme on le retrouve aujourd'hui, le pays d'Israël, c'est un pays de grande richesse, hein. Voilà, c'est ce qui fait peut-être la convoitise, hein, de tous ses voisins d'aujourd'hui, mais c'était les mêmes qu'hier, hein. Quand il s'agit d'Israël, eh bien, il n'y a qu'une pensée, c'est véritablement, eh bien, détruire cette nation et ce peuple. Bon, peu importe. Je vous le donnerai. Lui, il vit avec une certitude, une assurance, une promesse dans son cœur, Moïse. Alors il va dire à son beau-père, viens avec nous, et nous te ferons du bien. Voilà. Ça, c'est une parole extraordinaire. Je pourrais dire, c'est en quelque sorte l'évangile avant l'évangile. Nous te ferons du bien. Parce que venir et s'approcher du peuple de Dieu, dans le cas qui nous intéresse, s'approcher de Dieu, dans l'évangile, s'approcher de Jésus, ce n'est pas recevoir autre chose que du bien. Et ça, il faut le dire. L'évangile, c'est pour ça que l'évangile, en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, c'est toujours quelque chose qui est réjouissant. C'est bon, et c'est toujours nouveau à la fois, de toute façon. Pour les temps, pour les générations, pour ceux qui étaient avant nous, ceux qui sont maintenant, et ceux qui viendront après nous, hein. C'est toujours une bénédiction. Nous te ferons du bien. Moïse et le peuple d'Israël étaient détenteurs d'une promesse extraordinaire, d'un héritage colossal, merveilleux, formidable. Il le croyait, le peuple plus réticent à le croire, mais il va s'adresser donc à cet homme qui fait partie de sa famille, naturellement, il a épousé la fille. Et à ce moment-là, eh bien, si tu viens avec nous, eh bien, nous te ferons du bien. Qu'est-ce que répond à ce moment-là Hobab? Je n'irai point. Voilà, bon, c'est clair, hein. Voilà, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller parce que c'est un homme certainement d'un certain âge, et il dirait, non, non, moi, je veux retourner dans ma patrie et je veux retourner dans mon pays. Ça peut sembler tout à fait naturel. Et pourtant, je voudrais vous dire que le beau-père de Moïse, on va l'appeler comme ça, on va pas lui chercher d'autres noms, mais le beau-père de Moïse a vu certainement les miracles. Ah oui! Était-il parti aussi en Égypte? Est-il sorti d'Égypte? A-t-il traversé la mer Rouge? Et il a dit, j'ai un gendre extraordinaire quand même. Il commande au ciel et puis la mer s'ouvre, hein, et puis des choses extraordinaires, hein, le rocher qui est frappé et dont dans un désert où il y a que de l'aridité et la misère et la mort, l'eau va sortir, une eau fraîche qui va sortir du rocher. L'écaille, la manne, etc., etc. Et là, à ce moment-là, il s'est dit, bon, maintenant je vais rentrer chez moi, et puis, eh oui. Vous savez, quelquefois, lorsque nous sommes interpellés comme Moïse interpelle son beau-père, quelquefois on se dit, bon, ben c'est bien, voilà, on a vu des choses extraordinaires, on sait que c'est la vérité, il y a certainement une belle promesse, je me réjouis pour Moïse, mon gendre, je me réjouis pour le peuple d'Israël parce qu'il va être béni, voilà. Mais lui, est-ce qu'il veut véritablement de la bénédiction, est-ce qu'il veut participer à la bénédiction? Il y a bien des gens, vous savez, qui viennent dans nos réunions, qui entendent, qui quelquefois entendent des témoignages extraordinaires, vous, vos témoignages, d'une façon ou d'une autre, qui entendent le message de l'évangile, se disent, mais c'est bien ça, j'ai entendu ça, hein. C'est formidable. Mais quant à eux-mêmes, eh bien, ça les laisse un peu dubitatifs en disant, bon, c'est bien pour eux, mais est-ce que c'est vraiment bien pour moi? J'ai ma patrie, j'ai mon pays, j'ai ma religion, j'ai mes habitudes, il y a des coutumes, il y a des us et coutumes dans mon pays et tout ça. Et puis, il y a mes dieux aussi, hein. Alors, c'est toujours l'hésitation. Qu'est-ce qu'on fait? On est à la frontière, on est devant un choix, on hésite, est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je m'arrête là et puis je rentre chez moi, tout simplement. Je voudrais vous raconter l'histoire brièvement, mais vous le rappelez, hein, simplement l'histoire de Ruth. Ruth, elle a reçu un témoignage extraordinaire de sa belle-mère. Vous connaissez la belle histoire de Ruth, la princesse d'Israël? C'est dans la Bible, lisez-le, c'est le livre le plus beau de la Bible. Hein. Mais comme ils sont tous beaux, vous choisissez, hein, vous verrez, vous les mettez par ordre de classement. Un livre qui est extraordinaire, c'est le livre de Lévitique. Un délice, non? Vous lisez tous les jours, je suppose, Lévitique. Bon, c'est un petit clin d'œil au passage. Mais toujours est-il que le livre de Ruth, c'est extraordinaire. Une païenne, une jeune femme, qui va perdre son mari, qui va perdre son beau-père, enfin lui aussi, hein, toute la famille va y passer, et puis elle va recevoir le témoignage de Naomi, sa belle-mère, et là, à partir de ce moment-là, elle va avoir une conviction. Elle va dire, là où tu iras, c'est-à-dire retourner en Israël, hein, la pauvre Naomi, veuve, perdu son mari, perdu ses enfants, etc. Elle retourne et pleurer après 10 ans finalement, d'une vie épouvantable, et elle voit Ruth, et elle lui dit, je retourne dans ma patrie, dans mon pays, et Ruth lui dit, eh bien, là où tu iras, j'irai. Ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Et là où tu mourrais, eh bien, je mourrai. Tes dieux, ton dieu sera mon dieu. Et là, elle va pas hésiter. C'est une belle histoire extraordinaire. Elle laisse tout derrière, elle avance parce que c'est devant que ça se passe, c'est pas derrière. Et vous savez, on est souvent un peu raccroché par notre passé. Surtout quand on commence à découvrir l'évangile, on se dit, mais oui, j'ai déjà une vie. J'ai déjà ceci, j'ai déjà cela, et quelquefois sentimentalement, on a du mal à décrocher. Mais il ne s'agit pas de se raccrocher n'importe comment et à n'importe qui et n'importe comme, de faire n'importe quoi. C'est véritablement de suivre à ce moment-là l'appel qu'on a reçu, l'invitation qu'on a reçue, et c'est pas une question d'appartenance ou d'adhésion à une église ou un mouvement religieux ou une théologie d'une manière ou d'une autre, mais c'est à Jésus. C'est ça justement la grande question. Et nous nous apercevons que, eh bien, Hobab, lui, d'un premier mouvement, il va dire, eh bien non, moi je ne reste pas, et je vais retourner dans mon pays, etc., parce que bon, voilà, c'est plus difficile quelquefois de prendre des décisions quand on est âgé que quand on est jeune. Les jeunes, on a le goût de l'aventure, vous comprenez? Et c'est beau l'aventure, hein, hein, c'est vrai, hein, mais pas n'importe laquelle, hein, les aventures, les bonnes aventures. Alors, il va dire, non, je n'irai point, mais j'irai donc, voilà, comme on l'a expliqué. Et Moïse va finalement surenchérir. Ah, il aimait son beau-père, hein. C'est vrai, c'est bien ça, hein. Voilà. Alors, Moïse lui dit, ne nous quitte pas, je te prie. Il le conjure, en quelque sorte, surtout. Nous sommes dans ce pays. Un pays que nous ne connaissons pas, c'est le désert. J'ai un peuple de 2 millions de personnes derrière moi. Nous sommes partis d'Égypte et nous devons remonter vers le nord, c'est-à-dire vers la Palestine, le pays de Canaan. Mais comment nous allons pouvoir suffire à tout cela? Alors, puisque tu connais les lieux, et c'est vrai que c'était un bédouin, vous savez, il n'y a rien de péjoratif, hein. C'était un bédouin, il vivait dans le désert, Hobab, là, enfin, le beau-père, il connaissait bien le désert, il savait ce qu'il en était, hein, même si Moïse avait vécu 40 ans dans le désert. Autre préparation, lui, si, hein, naturellement. Alors, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais le lieu, nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Alors, si c'est pas pour toi, en tous les cas, fais-le pour nous. En quelque sorte, toi tu connais bien le terrain, tu sais bien les choses, tu vas pouvoir nous guider. On peut pas laisser mourir ses enfants, on peut pas laisser mourir tout ce peuple, c'est pas possible, tu nous serviras de guide. Et il ajoute, si tu viens avec nous, voilà, si, c'est une condition. Il lui dit pas, tu vas venir avec nous, et puis c'est tout, hein. On me baillonne et puis tu dis plus rien. Non, si tu viens avec nous, et là c'était belle parole, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel te fera. Dans la première proposition, c'est « Viens avec nous, nous te ferons du bien, nous, Israël, moi, Moïse, nous te ferons du bien ». Mais dans la deuxième proposition, ça va encore plus haut, c'est qu'encore il y a une graduation, « Nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera », en sachant qu'il va bénéficier, Moïse et tout le peuple, d'une bénédiction particulière dans cette longue traversée, dans cette traversée périlleuse, dans ce désert déshérité où la mort est tout autour. Mais il sait que de toute façon, il n'est pas tout seul. Il y a Dieu. Dieu est au milieu du peuple. Et le peuple va être conduit jusqu'à son terme, jusqu'à sa destination. Nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Est-ce que ce n'est pas véritablement le témoignage d'une véritable conviction chez Moïse? Et cette conviction, il ne veut pas la garder pour lui-même. Il la partage déjà avec le peuple, mais il veut que même les étrangers, parce que c'était un étranger, hein, son beau-père, hein, c'était un non-israélite, on pourrait dire, hein, non pas un fils d'Abraham, mais des peuples, hein, des païens, hein, tout simplement, eh bien, il pense que finalement, eh bien, la bénédiction de Dieu est aussi pour les autres. Et ça, c'est formidable. C'est déjà des premiers symptômes, enfin, les prémices, finalement, de l'universalité du salut qui nous était apporté déjà par Jésus-Christ. Eh oui. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous issus de Dieu, nous sommes tous créatures de Dieu, et que ce soit Israël, ou que ce soit d'une manière ou d'une autre les uns et les autres, nous sommes avant tout ses créatures. Mais Dieu veut que nous le connaissions, non seulement comme notre créateur, mais comme notre rédempteur. Et c'est ce bien, justement, dont il est question. Nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Alors ils partirent de la montagne, de l'Éternel. Vous savez comment elle s'appelle, cette montagne de l'Éternel? Le mont Horeb, Sinaï. Sinaï. Donc, partir de là, ils marchèrent 3 jours, mais le symbole de la présence de Dieu était quelque chose de très sensible pour Israël. C'est-à-dire, ils marchèrent 3 jours pendant, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux, et ils firent une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Vous avez remarqué, pour leur chercher un lieu de repos. Cette représentation symbolique, matérialiste, matériel, on pourrait dire, de cette arche de l'Alliance qui marche finalement devant le peuple d'Israël, eh bien, c'est elle qui conduit, en quelque sorte. Et pour trouver un lieu de repos. C'est quelque chose d'assez étonnant aussi, de prendre en considération que Dieu appelle les hommes à se rapprocher de lui, à marcher avec lui, à croire à la destination que Dieu leur a préparée. Et ainsi, eh bien là, dans un but tout à fait particulier, de leur donner du repos. Ah oui, ils en avaient besoin. Après les émotions d'Égypte, après cette crainte et cet effroi qu'ils ont eu lorsqu'ils étaient confrontés avec la mer Rouge qui ne s'ouvrait pas, à un certain moment, de savoir que l'armée de Pharaon était derrière et qu'il allait passer tout le monde par le fil de l'épée, imaginez-vous que ça crée quand même un petit peu d'inquiétude, non, un peu d'angoisse, hein, un effroi. Et là, à un moment donné, la mer Rouge va s'ouvrir. Israël va passer à pied sec et tous les chars d'Égypte, la grande armée d'Égypte, c'est certainement une armée d'empire, nous pourrions dire, elle était engloutie sous les eaux. Ça, c'est quelque chose. Alors, ça fait des émotions, tout ça. Et ils avaient besoin, à travers tout ça, eh bien, de trouver finalement, eh bien, le repos. Ça nous fait penser à quelqu'un. Oui, quelqu'un qui l'a dit, quelqu'un qui l'a redit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Jésus reprendra ce thème. Il parlera à tous ces malheureux lorsqu'il sera sur la montagne, probablement de Galilée ou autre part, peu importe. Mais quand il prononcera ces paroles, mais je vous donnerai du repos pour vos âmes. Faites-moi confiance. Suivez-moi. Croyez en moi. Et c'est ainsi que Jésus a parlé, reprenant certainement, eh bien, dans l'esprit toute cette belle histoire pour leur chercher un lieu de repos. Je crois que lorsque nous accueillons des hommes et des femmes dans cette salle et dans bien d'autres, hein, c'est partout où l'évangile est annoncé, autant que nous pouvons nous en souvenir nous-mêmes lorsque nous sommes venus pour les premières fois dans les réunions, combien nous étions fatigués. Je veux le dire, hein, parce qu'il faut être fatigué de quelque chose pour venir à Dieu. Si nous sommes en pleine forme, si pouvons nous débrouiller tout seuls, si nous pouvons finalement, eh bien, faire des choses que nous croyons accessibles et conquérir ceci et cela, on n'a pas besoin de Dieu parce que ça ne sert à rien. Mais on s'aperçoit dans l'évangile, tous ceux qui ont été auprès de Jésus, tous ceux qui ont suivi Jésus, qui ont emboîté les pas de Jésus, c'était tous des gens qui étaient malheureux, des gens qui avaient faim et soif, de différentes choses, de différentes natures. Des gens qui étaient souffrants, malades, aveugles, qui ne connaissaient pas ce que c'était que la lumière, le sourd qui n'entendait aucun son, hein, le boiteux qui ne pouvait pas finalement se déplacer. Et puis, il y a eu toutes sortes de détresses qui nous sont rapportées dans le message évangélique, dans les messages évangéliques. Et c'était tous des gens, finalement, qui avaient besoin de repos quelque part, qui avaient besoin de repos pour leur corps, et Jésus les a guéris. De repos pour leur âme, pour leur cœur, dans leur esprit, dans leur conscience. Quand Jésus pardonne, c'est véritablement le repos de la conscience. Croire au pardon de Dieu. Ils étaient tous finalement profondément malheureux, tous ces gens. Et Jésus commencera, et ça ce n'est pas pour rien, qu'il commencera finalement son ministère de Messie pour l'Israël et puis de Sauveur pour le monde entier à travers ces belles paroles du Sermon sur la montagne et des Béatitudes. Soyez heureux lorsque vous serez écrasés, vous serez piétinés, vous serez maudits, vous serez rejetés, que vous serez faim et soif de justice lorsqu'on dira toutes sortes de choses faussement. À cause du nom que vous portez et toutes sortes de choses. C'est parce que justement, ils étaient fatigués. Et le mot repos a quelque chose, finalement, de puissant, là. Parce que le repos de Dieu, c'est une réalité. Et nous l'avons trouvé. Nous savons ce que ça veut dire. Ne serait-ce que déjà, cet affranchissement de la porte de la mort. Quand on est chrétien, eh bien, voilà, on sait qu'on est comme tout le monde et qu'on devra partir un jour ou l'autre. Mais une chose qui est certaine, c'est que, à partir du moment où nous avons placé notre confiance, en Jésus, il y a un repos à l'intérieur. Eh oui. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On peut traverser les épreuves, n'est-ce pas? Et puis avoir le repos, je l'ai entendu ce matin. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est précieux. On peut perdre des amis chers, on peut perdre des bien-aimés. C'est vrai, dans notre vie. On peut peut-être se retrouver, comme on l'a souvent entendu, au chevet de quelqu'un qui va subir une intervention le lendemain et quelque chose, et qui nous dit, quelquefois, lorsque nous la visitons, qui nous dit, mais je suis dans le repos. Ça, c'est formidable. Ça, c'est unique. C'est inimitable, et ça ne peut pas se faire avec l'intelligence et le raisonnement, c'est pas possible. Ça, c'est Dieu qui nous donne ce repos. Alors, quand nous voyons ces paroles, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel, tout simplement, a promis de nous faire, de faire du bien à Israël. Ça, c'est déjà le premier élément de la promesse. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu le veux, ça? Alors viens avec nous. Il hésite, il ne veut pas, et puis ensuite il est convaincu, et à ce moment-là, il va y avoir la confirmation, mais nous te ferons jouir du bien que l'Éternel eh bien, nous fera, nous le partagerons ce bien, ce repos, cette paix, nous la partagerons. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que l'Église, dans ce qu'elle est, dans toute sa faiblesse et dans toute son imperfection, moi je crois que quand on est réunis entre nous, dans notre petite réunion, je crois qu'on se fait du bien. Il est anormal lorsque dans une Église on se fait du mal. Vous n'êtes pas d'accord? Ça, c'est pas fait pour, hein. Et moi, je crois que on attriste Dieu lorsque il y a un climat qui est un climat délétère. Mais là où il y a véritablement une bonne communion fraternelle, sans juger les uns et les autres, parce qu'on est tous différents, hein. Pas de ma faute si j'ai les yeux bleus, vous avez remarqué? Bon, peu importe. Mais toujours, c'est pas vrai, hein. Mais toujours est-il que on est là pour se faire du bien les uns et les autres. Et ça, on se le partage. Et combien les nouveaux qui arrivent? Moi, je l'ai connu il y a des années en arrière. Combien, lorsqu'il y a un accueil, lorsque on ressent finalement, la joie de cet accueil, le bonheur de nous retrouver entre nous, parce que nous avons maintenant un point commun. Nous faisons partie d'une famille, mais c'est pas une famille charnelle, une famille selon la chair, c'est une famille dans l'esprit, vous comprenez? Parce que nous avons un point commun qui nous rattache, un dénominateur commun, c'est Jésus, notre foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose. Et vous savez ce que Jésus nous a dit? Aimez-vous les uns les autres. Et ça, c'est important. Et quand on revient, après avoir traversé le désert de la vie, de l'expérience de la vie, qu'on revient, on est assoiffé, on est désespéré, on est meurtri, on est fatigué, on est épuisé, on est lassé, on est découragé, blasé peut-être, et que là, véritablement, on trouve cet accueil. La présence de Jésus, ces paroles, la parole de Dieu que nous entendons, qui nous fait tant de bien, on commence à reprendre peu à peu la vie. Et l'espoir, l'espérance renaît. Et c'est comme ça que notre foi grandit. C'est une belle famille, hein. Je ne veux pas dire le contraire, hein. Même si quelquefois il y a des petites anicroches. Enfin, le berger est là pour siffler les brebis quelquefois, hein. Ou la fin du match. Mais bon, c'est un petit clin d'œil parce que ça arrive pas. Mais toujours est-il que c'est quelque chose de formidable pour leur chercher un lieu de repos. Moi, j'aimerais prolonger un petit peu notre réflexion. On va regarder dans Ésaïe 55. Alors, Ésaïe 55, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Hein, tout le monde connaît Ésaïe 55. On va voir ce qu'il nous est dit parce que c'est aussi une invitation. Et cette invitation, elle se fait déjà de beaucoup plus précise que Moïse la faisait dans la lecture que nous avons faite. C'est déjà en quelque sorte les prémices de celui qui viendra, qui sera plus grand que Moïse, qui sera le plus grand de tous, c'est Jésus. Et vous savez, 55, Ésaïe 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, d'accord, vous l'avez trouvé? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Je crois que c'est déjà quelque chose, là, à travers ou un complément, une complémentarité. Parce que l'appel, il revient et nous ramène à ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais d'une manière tout à fait particulière, on parlait de désert, et dans le désert, on a soif. Le désert de la vie, le désert du chômage, le désert de la maladie, le désert de la solitude, on peut dire ça. Alors si nous ressentons cela, on peut lui donner toutes sortes de formes. On peut l'interpréter sur différentes natures, mais ça on le sait soi-même, où sont nos besoins. Alors vous qui avez soif, venez aux eaux. Un jour, de fête à Jérusalem, Jésus s'était rassemblé, c'était une grande fête religieuse. Et Jésus était rassemblé, il y avait probablement des centaines et des milliers de personnes autour de lui. Et il a dit à tout le monde, d'une voix forte, d'une voix haute, pour que tout le monde entende, eh bien, de venir et de boire aux eaux qui désaltèrent. Lui-même se présentant comme celui qui peut donner véritablement à satiété la réponse à nos besoins. À nos besoins de boire, nos besoins de se substanter de tout ce qui nous manque en quelque sorte. Et on s'aperçoit que Jésus faisait référence à celui qui viendrait après Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je crois que dans nos réunions et lorsque nous prêchons l'Évangile, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, c'est lui qui convainc, c'est pas le prédicateur. Le message est plus important que le messager, on est bien d'accord, hein. Et une chose qui est certaine, Jésus, quand il dira « Mais venez aux eaux, buvez, prenez, si vous qui avez soif, ne refusez pas, ne faites pas marche arrière, vous êtes altérés, vous êtes dans une situation où vous avez besoin, mais il n'y en a qu'un qui peut vous donner la satisfaction, c'est pas la religion, c'est pas les beaux discours, c'est pas les beaux sermons, surtout que c'était une fête religieuse là. Si vous voulez, Jean chapitre 8, vous le retrouverez, hein. Et vous pourrez le relire, vous verrez, ce que je dis, c'est tout à fait en conformité. » Et il nous est dit que Jésus disait de cette parole parce que l'Esprit n'avait pas été encore donné, parce qu'il n'était pas glorifié, mais quand l'Esprit viendrait, il pourrait nous donner. Il nous donnera, eh bien, la satisfaction dont nous avons besoin. Nous avons besoin, finalement, de réaliser que la conversion, d'abord précédée de la repentance, la conversion à Jésus-Christ, nous ouvre une porte merveilleuse, extraordinaire, c'est-à-dire, c'est véritablement être visité, rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et là, nous ne sommes plus tout seuls. Nous avons véritablement celui qui peut nous abreuver. D'ailleurs, l'image emblématique de l'Esprit Saint, c'est l'eau. L'eau qui court. Et sans eau, il n'y a pas de vie, hein, sur le plan matériel. Eh bien, sans la vie de l'Esprit, il ne peut pas y avoir aussi véritablement de conversion, il ne peut pas y avoir d'acquisition du pardon, il ne peut pas y avoir la foi, c'est pas possible. Il peut y avoir la religiosité, il peut y avoir des croyances. Mais la vraie vie, elle est là. Et c'est auprès de Jésus que nous trouvons la vie. Alors, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Parce que ça ne se paie pas. Ce n'est pas monnayable. Il n'y a rien à faire. Jésus dira un jour à ses disciples, et vous le retrouvez en lisant les évangiles, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il n'y a pas plus grande imposture que l'on fasse de la religion une affaire d'argent. » Enfin, vous connaissez ma pensée. Et ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Parce que c'est un discrédit de l'évangile. Alors que Jésus a dit, mais... et un don, un cadeau, ça ne se paie pas. Et nous, ce que nous avons reçu, c'est un cadeau, c'est un don. On va quand même pas le faire payer aux autres, non, quand même. C'est quand même terrible. Celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Avec modération, hein. Pas le lait, mais le vin, hein. D'accord. Enfin, je le dis au passage parce que je suis obligé de me mettre à la législation, vous comprenez. Donc, du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Vous savez que c'est gratuit. Tout est gratuit. Jésus nous a été donné gratuitement. Alors, est-ce que nous voulons le faire payer? Est-ce que nous lui disons que, ben, écoute, voilà, puisque tu as fait ceci et cela, on voudrait quand même faire quelque chose? Non, le Seigneur ne demande rien. Il ne demande qu'une chose. Et d'ailleurs, on est venu poser cette question un jour à Jésus. Que faut-il faire pour être sauvé? Enfin, je le dis de cette manière. Et Jésus répondra, eh bien, croyez, c'est en croyant que vous pourrez, justement. En croyant, pas en faisant, en donnant ou en payant. Pas du tout. Hein? L'œuvre, voilà, c'est ça, je reviens sur la pensée. L'œuvre qui nous permet finalement de rendre, d'accéder au salut de Dieu, c'est de croire que Jésus-Christ est notre sauveur. Ça, il n'y a pas autre chose. Hein? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas que d'efforts dans le monde religieux, que de déploiements, de pompes et de tout ce que vous voudrez pour essayer de gagner son ciel et son salut? Alors pourquoi pesez-vous de l'argent? Pourquoi êtes-vous obsédé à acheter ce qui est gratuit? C'est ça ce que ça veut dire en traduction, hein? Tout simplement. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Que d'efforts. Mais on a mis les gens, on a mis les hommes sous une discipline et sous des contraintes, hein? Parce qu'on a toujours pensé qu'on était salué, on était sauvé par les hommes, mais on n'est pas sauvé par les hommes. On est sauvé sans mérite, sans rien faire, on est sauvé par la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvé. C'est la grâce de Dieu. Et c'est un don que Dieu nous a donné. Afin que personne ne se glorifie en disant, moi j'ai acheté mon ciel, j'ai acheté mon salut. Pas du tout. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Oui, Jésus pourrait reprendre à son compte la même chose. Et écoutez ma parole. Et vous verrez combien ma parole elle est bonne. Combien elle nous nourrit. C'est une nourriture spirituelle. C'est pour ça que nous pouvons qu'encourager les amis, les uns et les autres. Et voilà, dans toutes circonstances, eh bien, à faire de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu véritablement, notre livre principal. Et les belles choses dans la Bible. Et quand je me réjouis, il y a toujours des choses qui peuvent me réjouir. Et quand je suis dans la tristesse, eh bien, cette parole me ramène à la joie. Elle me donne de l'espérance. Et combien de fois nous avons fait ce genre d'opération en quelque sorte. Et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Eh oui, que de gens sont réfractaires à écouter le message de l'évangile, à se tourner vers Jésus. Parce que finalement, on n'y croit pas. Parce que quand on croit à quelque chose, on y va. Hein. Vous avez vu là, aux Jeux Olympiques, hein, ils sont tous à y croire. Hein. Non mais c'est vrai, parce que autrement, ils seraient pas sur la ligne de départ. Hein. Ils y croient, ils pensent que c'est eux, même s'ils sont peut-être plus ou moins beaux. Mais ils y croient parce qu'ils se disent, voilà. Hein. Et ils y vont, ils ont raison, quelque part. Eh bien, la même chose pour le salut. Hein. Et vous savez, s'il y a très peu d'entrain, s'il y a très peu de motivation et d'émulation, c'est que finalement, le monde n'y croit pas. Hein. Le monde pense tout simplement qu'il va être sauvé. Hein, parce que comme... Obab, là, voulait retourner dans son pays, ses coutumes, etc., et ses traditions, il se dit, mais c'est là, comme ça, je vais être sauvé, de cette manière. Alors que c'est pas du tout comme ça, de toute façon. Nous sommes appelés à avancer, et à suivre Jésus, parce qu'il nous a préparé le repos, il nous a préparé la paix, il nous a préparé quelque chose de bon, et c'est ainsi que notre âme va vivre. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers le message, dès le début du message évangélique, ce n'est plus Israël, uniquement Israël, mais c'est le monde entier qui va être atteint par ce message, finalement, de la foi en Jésus-Christ, cette foi qui sauve et qui nous amène, eh bien là, à être de nouvelles créatures. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas courront vers toi. Comment le christianisme s'est développé dans le monde entier? À partir, finalement, de ces quelques paroles. Le bruit allait jusqu'aux extrémités du monde. Prêchez la parole de Dieu. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Celui qui croira sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Ceci, cela, etc. Et les disciples sont partis dans le monde entier. Et il nous est dit qu'ils prêchaient la parole de Dieu et Dieu confirmait sa parole par des signes, des miracles, des guérisons et toutes sortes de choses. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Allez vers les autres, allez vers le monde. Et pourtant, nous sommes dans un monde compliqué aujourd'hui. Dans ce fatras de religion, qui s'opposent les unes les autres, où il y a du sang, où il y a des meurtres, où on fait ça au nom de Dieu, mais derrière ce ne sont que des prétextes, finalement, de la méchanceté et de la guerre. Mais Jésus est le prince de la paix, hein, nous apporte autre chose. Et les nations que ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Permettez-moi encore, Zacharie, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais terminer là-dessus. Zacharie, chapitre 8. Là, il est question aussi, justement, dans la même pensée, dans la même, le même courant de ce que nous avons vu, là, dans le livre des Nombres, le livre du prophète Ésaïe, et puis on va terminer par Zacharie. Chapitre 8, Zacharie, et verset 13. C'est très explicite, hein. Verset 13. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations. Et nous pouvons dire que Israël a une véritable malédiction qui le poursuit encore aujourd'hui. Détruisons Israël pour qu'il ne paraisse plus sur la surface de la terre. Ça existe encore aujourd'hui. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même, je vous sauverai. Qu'est-ce que nous avions auparavant, nous, avant de nous convertir, avant d'être finalement chrétiens, peut-être religieux, mais chrétiens de nom, mais pas de cœur? Parce que ça suppose véritablement une transformation, une rencontre avec Jésus, une nouvelle naissance. Alors, je vous sauverai, nous dit Dieu. Et d'avoir été finalement dans une vie de vanité, après avoir été dans une vie de malédiction, une vie qui n'a pas de sens, une vanité, on peut dire, eh bien, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Et ça, c'est quelque chose de formidable qui nous ramène à notre premier récit. Si tu viens avec nous, nous te ferons du bien. Parce que Dieu veut nous faire du bien, et nous partagerons avec toi la bénédiction que Dieu nous donne à nous, Israël, Moïse et Israël, et pour que ça puisse être une bénédiction pour tout le monde entier. Et vous savez, quand on se tourne vers le Seigneur, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais c'est que nous devenions une source et une ressource de bénédiction pour tous ceux qui nous environnent. Il y aura des gens qui vont y croire, et des gens qui n'y croiront pas, mais les choses sont faites. Parce que je crois que quand on est chrétien, on amène dans nos familles, parmi nos amis, parmi ceux qui nous connaissent, sans faire de tapage et faire de prosélytisme, on amène une bénédiction. Une bénédiction, oui, sur une famille. Là où nous sommes, là où nous pouvons être représentés, nous sommes finalement des hommes et des femmes qui avons la vocation de bénir les autres. Parce que nous avons reçu cette bénédiction de Dieu. Ne craignez point et que vos mains se fortifient. Et puis on va voir au verset 22 et 23, parce que ça c'est la fin. Il nous est simplement rappelé, et beaucoup de peuples et de, verset 22, beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel, désarmer et implorer l'Éternel. Eh oui. Ça s'appelle communiquer la foi. Ça s'appelle finalement, donner aux autres ce que nous avons reçu. Parce que nous n'avons pas décidé de faire marche arrière, mais d'avancer. Et de le donner aux autres. Et aujourd'hui, si le monde connaît le message de Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a eu des chrétiens qui ont pris beaucoup de souffrances, voire même pour certains le sang, le feu et leur vie, ont été jusqu'au bout, et si aujourd'hui nous pouvons nous rassembler en paix, si nous pouvons avoir tout simplement cette simple petite communauté pour partager et ouvrir la Bible, c'est que quelque part, ils sont allés d'eux avant et non pas en arrière, quoi qu'il en soit. Ils n'ont pas fait demi-tour. Voilà, ils viendront chercher l'Éternel des armées. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus d'hommes, de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles qui aient faim et soif de Dieu. Eh oui. Faim et soif de connaître Jésus. Faim et soif de se délecter de sa parole qui fait un bien fou. Je parlais avec une personne, j'étais en visite cet après-midi, et on parlait, une chrétienne, et qui me disait, moi, j'ai eu des amis, j'ai encore des amis dans le monde, mais je me dis, mais, parce qu'avant, elle était au milieu des, c'était un contexte très mondain. Et elle disait, mais, aujourd'hui, je ne peux pas m'identifier. C'était ma vie avant. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'est impossible. Je ne peux plus m'identifier parce que ma vie a changé. Le Seigneur a transformé ma vie et je ne peux plus maintenant adhérer à ceci et cela. Voilà. Une vie vide. Une vie sans but. Fait de toutes sortes d'émotions, de passions, de toutes sortes de choses. Mais ça ne fait pas vivre, ça. Ça tue. Ça fait mourir. Je crois que c'est véritablement, cette tristesse du monde qui tue, en quelque sorte. Mais, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, à ce moment-là, c'est quelque chose qui fait vivre naturellement. Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 23. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous. Eh oui, on n'en est pas là. Actuellement, c'est pas le monde entier qui suit à Gaza et autre part, qui suit les juifs en disant, on ne te lâche pas, on veut la bénédiction. C'est plutôt des... Il profère plutôt la malédiction sur Israël. Mais Dieu apparaît à Israël. et les choses que Dieu a à Israël, comme il l'a dit aux chrétiens, comme il le dit à l'Église encore aujourd'hui, c'est que Dieu, finalement, eh bien, tiendra sa parole. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre celle-ci. Parce que nous irons avec vous et nous avons appris que Dieu est avec vous, tout simplement. Alors ayons un témoignage qui permette à tous ceux qui nous voient vivre, c'est pas tant de dire que de vivre ce que nous avons, de partager avec les autres en vivant ce que nous avons, qu'à ce moment-là, eh bien, ils aient envie finalement de devenir aussi à leur tour chrétiens. Jésus nous donne, vous êtes le sel de la terre. Eh oui, le sel, quand vous en prenez tous les jours, hein, et en quantité raisonnable, parce qu'autrement vous allez vous dessécher, hein. Mais moi, c'est un conservateur d'aliments, hein. Mais toujours est-il que le sel, ça donne soif, hein. Mais c'est bien d'avoir soif. Et si on peut donner la soif de l'évangile, soif de Jésus-Christ, c'est formidable. Et Jésus ajoutera, mais vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière, faut pas la mettre sous le boisseau, faut pas la couvrir, parce que personne ne la verra. Et vous la mettez bien haut. À ce moment-là, elle va éclairer tous ceux qui sont autour de vous. Alors, viens avec nous, et nous te ferons du bien, parce que l'Éternel a dit qu'il nous bénirait, qu'il changerait la malédiction, et qu'il nous donnerait sa bénédiction. Sa bénédiction, elle se résume à travers une personne, Jésus-Christ, et son salut, et je le reçois tout simplement par la foi. Je crois, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu me sauves, je crois que tu me pardonnes, je crois que tu es capable de transformer complètement et totalement ma vie, et je voudrais te dire que j'ai confiance en toi. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole, parce qu'elle provoque la réflexion. Et nous voulons croire, Seigneur, que pour les uns et les autres, la plupart d'entre nous ce soir, eh bien, nous avons vécu ces belles expériences. Et qui pourrait dire aujourd'hui qu'il veut retourner en arrière, qu'il veut retourner avant de te connaître, ce qu'il était avant de te connaître, parce que nous savons bien, Père éternel, que tu as été pour nous une source immense de joie, de paix et de bonheur, de repos, Seigneur. Et si parfois il y a des épreuves, il y a des difficultés dans notre vie, comme c'est le lot de tous les hommes, eh bien, tu étais auprès de nous pour nous réconforter, pour nous dire de continuer le chemin. Et même si nous ne voyons plus, nous n'avons plus de visibilité, eh bien, c'est avec tes yeux que tu vas nous conduire, comme cette belle histoire de l'arche qui marchait devant et qui les a amenés dans un lieu de repos. Oui, Seigneur, quelquefois notre marche, notre cheminement est un cheminement, Seigneur, à court terme. Nous ne voyons pas ce qui va se passer, nous ne savons pas, et c'est bien que tu nous dises de ne pas nous inquiéter. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu sais où tu nous conduis, tu sais comment tu nous conduis et où tu veux nous conduire. Je te demande de visiter chacun et chacune qui ont entendu ta parole, ceux qui vont l'entendre également d'une autre manière, et qu'ainsi, Père éternel, tu les bénisses. Et nous voulons dire, comme Moïse le disait, viens avec nous et nous te ferons du bien, parce que l'Éternel a décidé, a projeté de bénir son peuple. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Jésus, merci pour ta parole, et merci pour l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.